J'ai rien d'intéressant à dire.
Oui.
Voilà,
oui.
On a commencé un tout petit peu en retard parce qu'on voulait pas couper
notre ami.
Enfin, si on l'a coupé à la fin, mais on voulait entendre l'annonce des trois titres anti-religion et religion qui ont été diffusés sur Canu. On voulait entendre tout jusqu'au bout. Donc voilà, on a une minute et quelques de retard, mais ce n'est pas grave.
Oui, on salue notre camarade qui a mis ses morceaux. Ça nous fait toujours plaisir de démarrer avec de la musique. Nous avons beaucoup aimé les paroles, pas forcément toute la musique, sauf pour Tiefen, que toi, je sais que tu es, Laurent, un grand fan. Vous êtes donc à l'écoute du Canu Info pour ce jeudi 28 mars 2019. On démarre un peu sur les chapeaux de roue, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça aussi, hein, on écoute un peu des bandes continues. On vous rappelle que les bandes continues, elles sont organisées, préparées par les bénévoles, puisque nous sommes tous gratuitement derrière ce micro, les bénévoles de la radio, hein, chacun et chacune vient avec ses petits morceaux et puis passe un petit peu ce que nous avons envie de passer, et c'est comme ça qu'on trouve des petites perles ou des choses méconnues. Ce soir, nous allons parler de plein de choses avec toi, Laurent. On va parler de monde réactionnaire, c'est toi qui nous parlera, par exemple, d'Union européenne, de pirates ou de migrants. Nous parlerons de sexisme, nous parlerons de ni Dieu ni maître, et oui, nous allons rester un petit peu dans l'esprit de ce début de Canu Info. Nous parlerons un petit peu après de profiteurs et puis d'industrie. On ira parler d'Airbus, on ira au Pentagone, on ira au Brésil, voilà, puis on parlera de Monsieur Wauquiez. On aime bien parler de Monsieur Wauquiez dans cette émission. Nous parlerons aussi, pour terminer cette émission, de Perdu Pharma, puis de Servier, puisqu'il se passe encore des choses, et ça me fera terminer cette émission avec un spectacle à voir au Théâtre de la Croix-Rousse qui s'appelle Mon Cœur. Et on va commencer pas trop avec un mot d'humeur hein, ce soir, mais simplement avec un sujet où on l'avait tous les deux, mais c'est pas vraiment un sujet. C'est juste qu'on est content parce qu'on aime le noir. Alors, nous, on trouve que les travailleurs du bâtiment, c'est un métier difficile. Pour les travailleurs et les travailleuses, parfois on est en extérieur, parfois on est en intérieur, mais en tout cas, on a parfois des patrons et des patronnes un peu chiants.
Et parfois on travaille la nuit.
Et parfois on travaille la nuit. Alors c'est plus rare parce que c'est des métiers quand même où souvent on commence plutôt tôt le matin. C'est aussi lié à des histoires de chaleur. Et puis parfois vous allez porter des pots de peinture en haut au sixième étage quand il n'y a pas d'ascenseur. Puis parfois vous êtes plutôt sur le rez-de-chaussée. Et c'est ennuyeux parce que vous devez mettre du noir
sur des vitrines de groupuscules plutôt d'extrême droite.
On se moque.
N'empêche qu'ils ont travaillé ce groupe antiraciste, antisexiste en pleine nuit pour aller repeindre en noir le truc dont on avait oublié l'existence. Alors, l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, de son vrai nom, la pseudo-école pour les néo-nazis
de Marion Maréchal Le Pen. Alors, c'est effectivement, c'est pas tant qu'on l'avait oublié, c'est qu'on est toujours, nous, très heureux de savoir que des gens continuent à embêter les fachos du coin, et on est très content que des groupes continuent à exister, d'autant plus que bon, c'est de la peinture, enfin je veux dire, c'est pas grave.
Oui, ils ont revendiqué, j'ai bien aimé leur revendication, ça disait: considérer cette attaque comme une réponse à tous les actes racistes, sexistes, homophobes, transphobes, ainsi qu'aux politiques meurtrières anti-migratoires et à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, perpétré dernièrement. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Effectivement, leur réaction, les conséquences de la politique des gens liés à cette mouvance politique sont des assassinats, sont des meurtres, sont des personnes qui se noient dans la Méditerranée. Donc finalement, aller repeindre en noir pour dire qu'on n'est pas d'accord, c'est beaucoup moins agressif, mais c'est presque tout aussi percutant, en tout cas pour nous.
Voilà, ben je te laisse la parole, je te laisse parler donc du monde réactionnaire.
Oui, non, j'avais quelques petites infos, ben c'est très proche hein, de ce qu'on vient de dire. Puisque l'Union européenne a décidé hier, on était le mercredi 27 mars, de suspendre temporairement le déploiement de ses moyens navals, bon, ses bateaux quoi, de sauvetage des migrants au large de la Libye. C'est des choses qui ont été mises en place en 2015 dans le cadre d'une mission militaire qui avait le joli nom de Sophia. Alors, c'est suspendu. Alors, certes, il y a eu un accord qui a été négocié avec les 28 pays membres de l'Union européenne pour prolonger au moins de 6 mois cette mission, c'est-à-dire jusqu'en septembre 2019. Mais, et c'est là où l'info du jour, le gros mais, les discussions européennes ont achoppé, ont échoué, dirons-nous, sur la question du débarquement des migrants une fois qu'ils ont été secourus, puisque le gouvernement d'extrême droite italien a tout bloqué puisqu'il voulait faire changer le but de la mission, c'est-à-dire que les migrants soient jetés à la mer. Non, c'est pas vrai. Soient amenés ailleurs qu'en Italie. En fait, il faut avoir en tête que depuis plusieurs mois, l'exécutif européen essaye de trouver une sorte de compromis avec les fachos italiens au pouvoir. Alors bien sûr, on appelle ça une coalition anti-système, mais ils sont surtout anti-migrants, du coup, et surtout très racistes. Et du coup, cette négociation, elle a échoué. C'est bien avec l'Italie, c'est l'Italie qui est porteur de ça, mais soutenue par plein d'autres pays européens, hein, des pays d'extrême droite, ou avec des gouvernements dits d'extrême droite. Il y en a pas mal, hein. On a l'Autriche, on a la Hongrie, on a la Pologne, enfin voilà, il y en a pléthore. Et du coup, ben, ça complique la politique européenne d'aide, notamment aux migrants, qui était déjà une politique minimaliste. Là, on est très loin de tout ça. Alors, il y a un diplomate européen qui explique, qui dit pourquoi ils ont retiré ça aujourd'hui, enfin hier. Ben, il faut rappeler qu'il y a une saison électorale qui arrive, dans deux mois, un peu moins de deux mois, il y a les élections européennes, et ils font tout pour limiter l'arrivée au pouvoir de partout de ces extrêmes droites. Donc là, en arrêtant cette opération Sophia, eh ben, ils essaient de calmer le jeu en disant non, regardez, on va pas sauver les migrants. C'est à la fois triste, à la fois à pleurer, à la fois honteux, mais ils sont dans un discours électoraliste d'essayer de sauver les meubles par rapport aux montées de ces différentes extrêmes droites. Alors, du coup, en fait, dans les faits, l'opération Sophia était bloquée depuis un moment. Hein, l'Allemagne n'avait pas envoyé de frégates. Il restait juste le Rayo, qui était fourni par l'Espagne, et le Luigi Rozzo, fourni par l'Italie, plus quelques hélicoptères et avions mis à disposition par l'Italie, l'Espagne, la Pologne et le Luxembourg. Donc voilà. Et si on en croit les infos de la presse italienne, en fait, depuis l'été 2018, donc ça fait un peu plus de 6 mois, presque 9 mois même, il n'y a plus du tout de sauvetage de migrants par cette opération Sophia. Et elle a quand même eu un rôle important l'année dernière, hein, puisque 45 000 personnes auraient été sauvées. C'est le chef de mission Enrico Credendino qui l'avait annoncé par les navires, les quelques navires de Sophia. 45 000 personnes, c'est pas mal. Ça fait 9% du total des migrants secourus en Méditerranée. Bon, ça sert aussi à arrêter des passeurs, à arrêter des trafiquants, parce que voilà, ça, au départ, c'est pas que pour sauver les migrants, faut pas rêver non plus, mais finalement, c'était devenu le principal but. Dans les faits, hein, depuis le début de l'année, 160 migrants sont déjà officiellement morts en essayant de traverser la Méditerranée. Je dis officiellement parce que il y en a qui doivent mourir sans qu'on s'en rende compte, malheureusement. Même si le chiffre baisse de par un changement dans les routes migratoires, ce chiffre reste très important. Et on a la deuxième affaire du jour, puisque la marine maltaise a annoncé ce matin avoir pris le contrôle du fameux pétrolier ravitailleur Eli Blue One, qui est arrivé donc pas très loin de Malte ce matin vers 9h. Alors dans les faits, on rappelle, c'est arrivé mardi, le pétrolier a secouru des migrants au large de la Libye, et quand les migrants ont compris qu'ils allaient les ramener à Tripoli, donc la capitale libyenne, ben, les migrants se sont rebellés et ont pris possession du navire. Ils ont joué aux pirates et donc ils ont détourné le navire. Quand l'Italie a annoncé qu'ils ne les accepteraient jamais sur leur sol, ils se sont détournés vers Malte. Et donc ils sont arrivés à Malte ce matin. Malte a envoyé les commandos de force spéciale pour reprendre possession du navire. Ce qu'ils ont fait, à savoir que dedans il y a 108 migrants, dont des femmes et des enfants. Donc là, actuellement, normalement, si tout va bien, ils vont être sur l'île de Malte. Et après, des organisations vont s'occuper d'eux. Voilà. Alors pourquoi ils ne veulent pas retourner en Libye? On a plein d'infos dessus, il y a eu plein de reportages, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il suffit de reprendre ce qu'avait dit Andrew Gilmour la semaine dernière, c'est le sous-secrétaire général aux droits de l'homme des Organisations Unies. Lui, il avait demandé à l'Union Européenne d'arrêter le soutien aux gardes-côtes libyens suite à toutes les infos qui étaient remontées, donc des tortures, des viols, de l'esclavage, enfin, toutes ces choses horribles qui ont lieu aujourd'hui en Libye sur les migrants. Donc voilà, on comprend du coup et c'est relativement, c'est même totalement logique que ces migrants aient et pu et essayer et arriver à prendre ce navire tel de sympathique pirate pour aller là où il voulait. Voilà. Et puis la dernière info de cette petite rubrique du Monde réactionnaire, c'est le député Arnaud Viala, que je ne connaissais pas bien, mais que je pense je vais continuer de détester malgré tout. Il nous vient de l'Aveyron. Alors lui, il a dit, c'est simple, moi j'ai compris un truc, et il ne le dit pas comme ça, hein. Les gilets jaunes, c'est des pauvres. C'est des pauvres qui réclament du partage des richesses. Alors moi, il n'a rien compris, parce que ce n'est pas que ça, il y en a certains, mais pas tant que ça. Ils ne sont pas, si pauvres, pas tous si pauvres que ça. Donc pour lui, un pauvre, c'est quelqu'un qui est au RSA. Donc qu'est-ce qu'il a fait comme proposition de loi ? Eh bien, toute personne, membre donc des Gilets jaunes, c'est sous-entendu, qui se ferait prendre dans une manifestation en train de dégrader quelque chose, eh bien, on lui retire le RSA. Voilà. Bon. Ça, c'est juste ridicule. C'est juste un truc voilà, de droite pour montrer qu'on est fort, qu'on est puissant contre les pauvres. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui va dans tous les sens. On se rappelle des premiers reportages sur le rond-point où il y avait des patrons. Du coup, on n'était pas du côté des pauvres. Et puis, c'est très discriminant ce qu'il veut faire. Ça veut dire que le mec qui n'est pas au RSA, donc, qui peut être travailleur pauvre d'ailleurs,
c'est
sans
ce que j'allais
RSA.
Dire. En fait, beaucoup de travailleurs peuvent être pauvres. Enfin,
tout à fait.
T'es pauvre, t'es travailleur. Il y a beaucoup de travailleurs.
Mais,
hein,
oui.
Donc,
non, mais a priori, ce député, les Républicains, ne connaît pas bien ni les pauvres, ni les Gilets jaunes, ni pas grand chose finalement de l'endroit où il vit. Parce qu'effectivement, et la pauvreté est très variée, et les Gilets jaunes ne représentent pas du tout la pauvreté.
Le but du mouvement, c'était pas de représenter les pauvres, c'était de parler de pouvoir d'achat. De plein de
voilà,
choses.
De
enfin, les
plus.
Mouvements sont très variés partout ouais. En France.
Donc voilà, c'est juste une proposition ridicule.
Alors, après c'est ridicule, on va passer à toute autre chose, on va parler de sexisme. Et je voudrais revenir très rapidement sur un site qui existe depuis le début du mois de janvier et qui a pris un petit peu de l'ampleur. C'est un site que vous pourrez retrouver sur internet qui s'appelle paytanote.com, c'est un jeu de mots, puisque c'est Agathe, une violoncelliste, qui a créé ce site pour faire ressortir les témoignages des violences, des agressions et de la bêtise des hommes dans le milieu de la musique. Alors, parce qu'on sait que dans la culture et le spectacle, il y a eu par exemple le cinéma, hein, on a eu les affaires d'agression, de viol, dans la télévision, hein, et la presse, les gens ont toujours une image un petit peu particulière du spectacle, par exemple, c'est que c'est un chouette milieu avec des paillettes, et comme il y a des gens qui sont extraordinairement particulier et différent du reste de la population, on pense que c'est un milieu très ouvert. Eh ben non, il faut se souvenir que la plupart des directeurs de salles sont des directeurs.
Tu veux dire des hommes ?
Eh ouais, c'est ça le truc. Mmh. Que les programmateurs sont des programmateurs, des hommes. Et que par contre, dans l'administration, la communication, la production, la billetterie, la médiation, l'accueil, on trouve beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de pas très subtil, hein, c'est-à-dire reproduit exactement ce qui se passe dans notre milieu. C'est-à-dire que les chefs sont des chefs avec un seul F, des hommes. Et puis les restes de la troupe, sans jeu de mots, hein, et ben c'est des nanas. Alors il y a une violence qui existe et qui existe particulièrement d'une manière non dite, tout à fait silencieuse. Il y a de la violence dans le milieu de la musique classique, la musique ancienne et dans le jazz. Parce que c'est là où il y a beaucoup de mecs aussi, hein, le chef. C'est un chef d'orchestre, ce sont beaucoup d'hommes. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas vrai. Delphine, il existe aussi des femmes. Oui, mais comme de partout, il existe des femmes, sauf.
Ouais, en chef d'orchestre, elles doivent être quand même super minoritaires.
Alors, j'ai pas les chiffres, mais de toute manière, il paraît qu'alors.
Et en jazz, à part les chanteuses, donc rôle très sexué aussi,
oui,
en
ouais,
jazz.
Tout à fait.
Hein, on trouve. Alors, aussi, il y a quelques contrebassistes, mais en fait, historiquement, pas beaucoup.
Et puis, alors, c'est surtout que quand tu regardes les orchestres, sur les instruments, et ben il y a des instruments où c'est très mixte, et puis d'autres où ça va être très difficile d'exister en tant que femme, vous voyez, dans les orchestres classiques, et voilà. Donc c'est aussi intéressant, c'est que c'est très vite sexué, genré, quand vous voulez faire de la musique à l'orchestre, à l'opéra par exemple, à l'auditorium, hein, vous voulez entrer, c'est parfois plus compliqué, et puis ben, y a toutes ces petites menaces qui arrivent, et sur ce site, alors c'est très basique, mais c'est tellement basique que c'en est effrayant. Alors, par exemple, je vous disais, dans les métiers du spectacle, il n'y a pas que les artistes, il y a tous ceux et toutes celles qui font vivre le travail des artistes. Et donc, par exemple, il y a un témoignage qui dit « Ah, qu'est-ce que tu fous là ? Ah oui, t'es secrétaire, quoi ?» Et donc, là, on nous explique que c'est un homme qui s'adresse à une chargée de production billetterie qui accompagne un groupe constitué d'hommes. Et c'est assez classique, c'est-à-dire que toi qui m'écoutes et qui es dans le milieu, tu sais que si tu arrives dans des salles, à Lyon, je n'en citerai pas, je devrais peut-être, vous me direz, en particulier dans des salles où on va trouver du rock, du rap et du métal, par exemple, il y a les techniciens qui sont beaucoup pour des hommes, hein, quand t'es une femme et que t'es à la régie, à la technique, ou simplement à débarrasser la salle, enlever des chaises, en ajouter, à défaire la scène. Il y a peu de nanas déjà.
Il y en a maintenant plus qu'il y a une dizaine d'années.
Mais donc on part de...
Le progrès, il existe.
Sauf que
même
quand
s'il
tu arrives et que tu accompagnes des musiciens,
on
par exemple.
On ne t'associe pas à ton poste réel.
Non, donc ça veut dire que tu as deux solutions. Soit tu fuis. Soit tu, soit t'es tout de suite, oui, dans un rapport quand même d'agressivité, c'est-à-dire que tu te dépasses que t'es toi-même. C'est un vrai problème, mais il y a plein de choses aussi hein, où on va expliquer à des musiciennes que bon, bah, si elles couchent pas, bah, elles n'auront pas d'album, elles n'auront pas de travail, qu'elles jouent, ah là là, elles jouent comme un mec. Et ouais, c'est basique, hein, c'est très basique, mais plein de femmes dans la musique continuent à entendre ce genre de choses. Donc voilà, c'était juste pour vous inviter, si vous êtes par exemple musicienne, d'aller faire un tour sur paytanote.com parce que vous vous sentirez moins seule, moi je pense. Et puis c'est aussi, il y a un gros mouvement en ce moment dans le milieu de la culture, parce que vous savez que le milieu de la culture, c'est beaucoup de petites entreprises, de toutes petites entreprises, qui sont dirigées par des hommes, hein, quand même, dans la plupart des cas. Le sexisme, il est réel, parfois pas agressif, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la violence physique, dans l'agression sexuelle ou dans le viol, mais on se tape quand même de la bêtise humaine, je pense, dans ce secteur, comme dans bien d'autres, et ça, le mouvement est en train de le dire là-dedans, parce que trop longtemps, on a cru que le milieu du spectacle, de la musique, du théâtre était différent des autres, ce n'est pas le cas. Et puis, on va continuer avec le sexisme, et on va partir en Corée du Sud. Vous savez que c'est un pays très conservateur, si vous ne savez pas, bah maintenant vous le savez, où il y a un système patriarcal en place, et il y a un scandale actuellement qui touche des stars de la K-pop. Vous savez, la K-pop, c'est le machin qui fait du bruit et qui n'est pas très bon, mais c'est, à mon avis, pardon, virgule, à mon avis, ce n'est pas très bon.
Ouais, c'est la pop coréenne, quoi. La variétoche coréenne.
Et qui se vend de partout.
C'est vrai.
Hein, particulièrement en Asie, donc c'est un secteur qui rapporte des milliards de dollars à la Corée du Sud. C'est un secteur qui est soutenu largement par une industrie très forte et même par les différents gouvernements, parce que ça ramène du pognon, que ça fait de la visibilité au pays. À mon avis, c'est pas la meilleure hein, pour parler du pays, mais enfin voilà, c'est comme ça. Et ben là, il y a une star qui s'appelle Yoon Jun-young, c'est une star de la K-pop coréenne qui a été arrêtée, placée en détention et qui n'a pas obtenu sa libération sous caution. Pourquoi ? Parce que cette jeune star de la K-pop a reconnu les faits et il a reconnu avoir filmé en vidéo des femmes avec qui il a eu des relations sexuelles, avec qui il a été en amour sexuellement, parfois des groupies, il faut le dire, qu'il a filmé à leur insu, sans leur consentement, et qu'il a diffusé ces vidéos sur un chat. C'est leur ligue du LOL à eux. Sauf que là, il y a de la vidéo, et ça a fait une espèce de... Alors, c'est une histoire de domino, c'est parce que, avec lui, il y en a plein d'autres qui tombent. Alors, on est en Corée du Sud, donc ce musicien, chanteur, puisqu'il même, il écrit, hein, il est parolier, compositeur et tout ça, c'est de la K-pop, mais ça n'empêche pas d'écrire. Il a expliqué qu'il était absolument désolé, qu'il allait se flageller toute sa vie, enfin il ne l'a pas dit comme ça, mais globalement il a dit que toute sa vie, il allait se repentir de ses péchés. C'est sur ces termes, flageller c'est pas très loin finalement. Oui, donc et dans son sillage est tombée aussi une autre star, Sean Gri. Alors Sean Gri lui fait partie du groupe Big Bang, c'est ce qu'on appelait des groupes de garçons, des boys bands en anglais. C'est un truc de K-pop très très connu. Et puis on a aussi appris que du groupe Light, Young Jung Hyung et Choi Jung Hoon, pardon pour l'accent, qui lui fait partie de FT Island, ont décidé aussi d'arrêter leur carrière. C'est-à-dire que là, il y a une succession hein, de choses qui est en train de se passer. Alors, il y a eu le mouvement MeToo aussi en Corée du Sud, qui a eu du mal à démarrer, mais alors une fois qu'il a été parti, je peux vous dire que ça a été quand même une affaire assez importante. Il faut dire qu'en Corée du Sud, vous savez qu'il y a un phénomène assez grave qui s'appelle le molka. Je ne sais pas si vous voyez ce molka. Alors, le molka, il existe de plusieurs variantes. C'est l'homme, parce que c'est une affaire d'homme, qui va, avec son téléphone multifonction, filmer sous les jupes.
Dans les toilettes.
C'est-à-dire que dans la rue, vous avez un homme qui va filmer sous les jupes courtes évidemment des femmes, ils ne se traînent pas par terre, qui va mettre des caméras espions dans les toilettes. Alors, moi qui étais à Séoul, je me demande si mon cul est quelque part sur un site d'hommes pervers, un petit peu quand même, il faut le dire. Et puis il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent sur internet filmées par leur ex À l'époque, ça ne l'était pas, évidemment, mais qui, le Rex étant pas content qu'elle les ait largués, se retrouve donc dans, à poil. Mais quand je, c'est pas de l'acte forcément sexuel qui a été filmé. C'est simplement une femme sous la douche, une femme aux toilettes, une femme la nuit qui dort, qui est déshabillée par son conjoint et qui se retrouve à poil sur Internet. C'est ça qu'il faut imaginer. Hein, c'est pas forcément de l'acte sexuel. Donc là, on a quand même aussi ce phénomène donc de violence faite aux femmes en Corée du Sud. Et puis, donc, cette affaire hein, de vidéos de stars de la K-pop qui sont obligées de démissionner, d'abandonner pour l'instant la chanson et la musique face à un scandale. Alors, c'est un scandale qui est retentissant, je vous le disais, c'est des milliards de dollars. Donc, on se retrouve face à une situation de dingue. Et alors, ça a fait ressortir une vieille affaire qui date de 2009. Une affaire, et je vais vous le dire tout de suite, qui a amené à ce que l'enquête soit réouverte, 630 000 signatures sur une pétition pour que cette enquête soit réouverte. C'est, peut-être vous vous souvenez, c'est une actrice, Young Jae-yeon, qui avait été retrouvée pendue. Et on avait retrouvé dans ses affaires tout un tas de documents dans lesquels elle expliquait que son manager, entre autres, l'avait obligée à avoir des relations sexuelles avec des hommes des médias, de la télévision, parfois de l'industrie, comme un des dirigeants des LOT, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, pour ceux et celles qui connaissent la Corée du Sud. Et donc, elle s'est suicidée. Elle s'est pendue. À l'époque, ça avait fait grand bruit, parce qu'évidemment, on avait une star connue qui se suicide. Par contre, en termes de justice, il ne s'était rien passé. Pas de, vraiment d'enquête, pas de poursuite. Alors c'est marrant parce que c'est pas marrant. Non, mais enfin c'est curieux. Mais son manager avait pris un an de prison, mais pas parce que il l'avait poussé à être violée. Hein, parce que certains disent elle avait été poussée à se prostituer. Moi, quand un homme oblige une femme à coucher avec des hommes, on appelle ça du viol, hein, quand même. Pardon. On peut jouer avec les mots, mais c'est pas simplement qu'elle avait été obligée de se prostituer. Il avait été, lui, sanctionné, parce qu'en fait, il avait tenté de faire, je raccourcis hein, le truc, mais il avait tenté de faire chanter le directeur de l'agence. Vous voyez, mais personne n'avait été puni, ni ceux qui étaient concernés par ces dénonciations, ni son manager. Et c'est cette affaire finalement MeToo. Et là, les dernières révélations qui ont relancé l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'elle elle est devenue le symbole de ce qui se passe en Corée du Sud, c'est-à-dire que les hommes peuvent agresser des femmes, peuvent violer des femmes, peuvent filmer leurs conjointes, peuvent, dans des situations dans lesquelles elles ne sont pas consentantes, et qu'il ne se passe rien. Et ce qui est incroyable, c'est que le président, M. Moon, a réagi le 18 mars. Il a parlé à la nation sud-coréenne en expliquant que ce n'était plus possible et qu'il fallait réouvrir les enquêtes, que la justice soit sévère et que les actes ne restent pas impunis. Voilà, nous on a Madame Chapa, eux ils ont Monsieur Moon, chacun son niveau. Hein. Mais c'était voilà, c'est intéressant parce que on a là tout un système de la K-pop qui s'écroule et puis un système aussi national qui est vraiment en révolution pour que les femmes puissent enfin se défendre et que les hommes arrêtent d'agresser les femmes. Et je voudrais juste redire ce qui s'est passé, parce que je crois que vous n'êtes pas tous et toutes au courant, les propos de Nathalie Bois de la Tour, tu vois qui c'est la patronne de la Ligue de football pro.
Ah oui, oui.
Qui a réagi aux commentaires de notre ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, j'y arrive jamais à le dire, hein, qui n'avait pas du tout apprécié ce qui s'est passé lors du match PSG-OM dans lequel il y a eu des propos homophobes. Et cette madame patronne donc du football a dit ce que vous entendez dans un stade vous ne l'entendez pas dehors, tout ça c'est hors de contexte, mais elle a surtout dit je ne dédouane pas ce qui s'est passé, mais
quand on met un mais c'est foutu.
Quand on parle de chants homophobes pour beaucoup de supporters, cela fait partie du folklore. C'est ce terme folklore qui a beaucoup choqué en France, c'est que alors elle dit oui, non, il faut se battre contre. Sauf qu'elle dit que c'est du folklore et que c'est pas si simple.
Et c'est pas du folklore. Et une petite anecdote qui m'a fait plaisir, ça n'a rien à voir, mais mardi soir pendant un concert, un fan ou une fan a crié enculé de patron. Et on comprenait l'image et on était d'accord avec son idée qu'on n'aimait pas les patrons. Le chanteur du groupe a réagi et a dit « Enculé n'est pas une insulte, enculé est une pratique sexuelle qui est d'ailleurs très positive pour les hommes puisque nous avons voilà des sources de plaisir prostatiques, dirons-nous. Et du coup, ça a calmé tout le monde et il a resitué ça et ce serait bien que tout le monde ait ce réflexe. On ne dit pas enculé quand on veut insulter quelqu'un. Vous trouvez autre chose. Et sale patron.
Cochonnerie de patron.
Cochonnerie de patron.
Ou patron. Non, en fait, cochons, patron, je crois que c'est contenu voilà. dans le terme. Patron. Voilà.
Mais
ça suffit.
C'était un ancien des Berruriers Noirs. C'était peut-être aussi logique qu'il ait un vrai discours
ouais,
politique.
Mais ça se fait assez rarement, finalement, de l'interrompre ouais. aussi, parfois.
C'était très bien.
De se passer. Et sur vos lieux de travail, je pense que moi, j'ai eu des collègues comme ça qu'il fallait reprendre tous les 4 jours et qui t'expliquaient que enculé, c'était pour ponctuer parce que c'était. Il venait du Sud.
Enculé, va.
Voilà. Et eh ben non.
Pardon.
Je suis désolé. Ouais, non, mais ouais. les gens, ils faisaient ouais, ça exactement. Ben bah, non, on ponctue
non,
pas.
Non, c'est une ponctuation parce que c'est devenu un réflexe et il faut sortir du réflexe.
Et il faut sortir. Et même, c'est ça veut dire facile, que quand même. Mais... C'est... Ouais, mais c'est une habitude aussi familiale. Et quand les gens, tu commences à leur parler de sodomie, ils sont tout gênés. Et tu leur dis, mais attends, tu viens de me parler d'enculé. Pourquoi on peut pas parler de sodomie? Du coup, ça te gêne à table. Et c'est là où il faut remettre les choses aussi calmement et dans le contexte. Et voilà. Et en général, ça prend un peu du temps.
Voilà,
mais on finit par y arriver. Allez, on parle de toute autre chose.
Ouais, mais du coup, on va être assez proche du sujet aussi.
Avec Monsieur Barbarin.
On va rester,
ouais, ouais. Dans... Ni alors, Dieu ni maître. Alors, moi, et Monsieur Barbarin.
J'ai décidé de faire un sujet sur Barbarin toutes les semaines. Hein, parce que voilà, c'est mon nouvel ennemi. Enfin, nouvelle, peut-être pas. En tout cas, il y a eu une grosse réunion drôle. Ça s'appelle le conseil presbytéral et diaconal. Alors j'ai appris deux mots d'un coup, hein, presbytère, je vois très bien ce que c'est, mais presbytéral, je connaissais pas, et diaconal non plus. Enfin bon, les boss de l'église catholique lyonnaise se sont réunis et ont voté à 48 voix contre 50 pour qu'ils dégagent. Bon, ils ont dit ça, ils ont pas dit « Barbarin dégage », ils ont dit, je cite, « pour qu'une page de notre diocèse puisse maintenant se tourner ». Bon bref, ils demandent à Barbarin de se casser. Ça c'était mardi, depuis on attend toujours la réponse de Barbarin, du pape et de tout le monde. Il est arrivé à faire un truc incroyable, monsieur Philippe Barbarin, c'est qu'il a tout le monde contre lui, même les cathos de son église. Allez, on se marre. Bon bref, un truc beaucoup moins marrant. On va aller à Brunei, petite dictature située sur une dictature, hein, c'est un sultanat, c'est un vrai truc autoritaire, totalitaire et tout ce que vous voulez, en territoire malaisien, sur l'île de Bornéo. Avec à la tête un milliardaire, hein, je crois qu'il a 20 milliards d'euros sur son compte, enfin un mec bien riche quoi. C'est un sultan, il s'appelle Hassanal Bolkiah. Et qu'est-ce qu'il a décidé lui, comme ça, et ses amis hommes, de mettre en place la charia. Donc la charia, c'est-à-dire on prend une espèce de version littérale du Coran et on l'applique. Alors ça fait super peur quand on sait ce qu'il y a dans ce texte horrible, puisque ça va taper sur les homos et ça va taper sur les femmes, grosso modo. Hein. C'est de ça dont il est question, puisque le Coran est un texte ultra sexiste et ultra homophobe, bien évidemment. Alors, dans ce qu'il... Alors, pourtant, hein, faut avoir en tête un truc, c'est que ce petit micro-état totalitaire, là, c'était déjà pas un truc drôle. Enfin, je veux dire, il y avait déjà un régime très coincé. Si vous n'allez pas à la prière du vendredi, vous avez droit à des amendes, voire un séjour en prison. Ben, c'était déjà dur. Tu n'avais pas le droit d'avoir des enfants dehors du mariage. Voilà. Et bien là, ce qui a été voté, alors ça fait longtemps, hein, ça fait plusieurs années qu'ils veulent faire passer ça, mais il y a eu plein de pressions internationales. Jusqu'à maintenant, ils ont plié, et là, ils n'ont pas plié. Il est allé jusqu'au bout de son idiotie, puisque à partir du 3 avril prochain, toute personne reconnue coupable d'avoir eu des rapports homosexuels ou adultérins encourra la peine de mort par lapidation. C'est la classe quand même, hein. Je veux dire, ça fait rêver. Alors, en théorie, ça ne devrait, mais c'est que théorique, s'appliquer qu'aux personnes de confession musulmane de l'île. C'est-à-dire à peu près les deux tiers des habitants. Mais c'est pas sûr que ce soit pas généralisé à tout le monde non plus. Donc voilà, ça remonte jusqu'à un état totalitaire et religieux. Ça parle assez peu de tolérance, d'amour, de respect, de plaisir et de toutes ces choses-là.
Alors, juste pour vous dire que le costume-cravate de M. Macron a bien fonctionné. VRP, tout ça, tout ça. Wouh, allez, tout quota, tout quota, tout quota. Puisque Airbus, ouh, on a vendu de l'avion.
Ouais, ils avaient précommandé déjà. C'était un peu une annonce pour faire plaisir à
Jupiter. Ouais, 290 Airbus A320, 10 A350. Oh, on a vendu tout ça à la Chine. Alors.
Et 0 A380.
Ouais, mais blague. Ça, c'est la blague. Oh là là. Alors, on n'a pas le montant réel.
C'est en milliards que ça se compte là.
D'après les médias, il faut partir du prix catalogue.
Ouais, mais t'as des réductions quand on commande autant.
Et je me doute, c'est bien pour ça qu'on parle du prix catalogue. Le prix catalogue, ça serait 35 milliards de dollars.
Ouais, mais ils ont dû au moins 20% de réduction.
Tout le monde dit, de toute façon, c'est un achat politique, pas un achat commercial.
Si, ils ont besoin d'avions, donc.
Oui, ils en ont besoin, mais. Voilà. C'est plus simple, c'est plus compliqué que ça. Alors, déjà, il faut savoir que c'est pas une compagnie précise qui a acheté ces avions. On est en Chine, je vous le rappelle. Donc c'est la China Aviation Supplies Holding Company, c'est une coopérative d'État qui achète pour d'autres compagnies, donc pour 13 compagnies publiques ou privées. C'est assez précis. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que où est-ce qu'ils vont être construits les petits avions ?
En Chine, tu veux dire ?
Eh bien, on ne sait pas trop, mais moitié-moitié peut-être. Ouais. Parce que sur le contrat de 2008, comme les médias, certains nous l'ont rappelé, par exemple Europe 1, tout le monde sait bien réanalyser tout ça. Hein, Le Monde, France Info, Europe 1, Le Parisien, vous oubliez, c'est de la merde. Libération, Le Figaro, tout ça. Tout le monde a réanalysé un petit peu les contrats avec la Chine. Et en 2008, il avait fallu faire moite-moite, c'est-à-dire une partie ici en France et puis l'autre partie en Chine. Alors Airbus, il y a une usine qui a été Jin là-bas en Chine qui permet de construire les petits avions. Reste que c'est assemblé là-bas. Alors, c'est pas inintéressant. Mais encore une fois, c'est pas tout pour des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs français ici. Alors, en même temps, la Chine, comme tu le disais, va acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avions dans les prochaines années. Il paraît que ça va être 19% de la demande mondiale dans les années à venir. Donc, c'est pas mal quand même. Et puis, par contre, on se prépare aussi à une petite concurrence. C'est que le constructeur chinois Comac devrait sortir un C919 prochainement. Alors, le truc, c'est que dans le C919, pour l'instant, il y a beaucoup de technologies étrangères, mais on pense que plus ils vont avoir des usines sur place, plus ils pourront récupérer une certaine technologie.
Ils ont intérêt.
Donc, pouvoir faire une concurrence à Airbus et Boeing, tout simplement. En tout cas, notre costume cravate s'est bien démerdé. Je vais avoir deux sujets en plus que je n'avais pas prévu. Juste pour vous dire, vous avez bien compris ce qui s'est passé avec le Boeing 737 Max. Vous avez bien compris que s'il s'est cassé la gueule, c'est que Boeing avait construit un machin trop vite.
En fait, c'est les lois du capitalisme qui poussent à aller trop vite pour sortir des produits pas totalement débuggés quand on a un concurrent qui a pris trop d'avance.
Et alors, ça serait à cause du logiciel anti-décrochage, l'acronyme c'est MCAS, ça veut dire Maneuvering Characteristic, je ne sais plus de quoi, Augmentation System. Voilà, c'est censé redresser l'appareil, on s'est aperçu que les pilotes n'étaient pas bien formés à ce nouveau logiciel, que certains sont allés contre le logiciel, qu'un certain nombre de ces pilotes n'ont pas su éteindre le logiciel et que c'est comme ça qu'on a eu des crashs avec des morts. On pourrait en rire s'il n'y avait pas des morts parce qu'il s'agit là quand même de quelque chose d'assez grave. Donc on a quand même des avions cloués au sol, des compagnies qui ne peuvent plus faire voler leurs avions. Et puis une autre histoire d'avion, c'est beau aussi le capitalisme. On a appris aujourd'hui qu'il y a une société d'avions à bas coût qui s'appelle Wow Air. C'est une compagnie islandaise.
Ah oui, ils ont arrêté.
Ils ont arrêté. Et en fait, il y a plein de gens qui sont à Reykjavik et qui sont coincés là-bas.
Oh, c'est sympa Reykjavik, non ?
Ouais. Alors, ils ne peuvent plus rentrer parce que la compagnie. Il faut imaginer. Alors, ce n'est pas le même système que chez nous, mais il faut imaginer un moment. Il y a une cessation de paiement, il y a une tentative de redressement. Et puis finalement, il y a une liquidation judiciaire, parce que personne n'a voulu
mettre de la thune. Voilà, ceux qui avaient un billet de retour, ils sont obligés de prendre sur une autre compagnie pour essayer de rentrer chez eux.
Voilà, alors il paraît que... Alors, c'est un truc quand même de dingue, parce que c'est un millier de salariés quand même, cette compagnie. Ils ont transporté 3 500 000 passagers en 2018. Et ils avaient commencé à vendre leur avion pour quand même essayer de faire rentrer du pognon. Ça n'a a priori pas suffi. Puis le problème, c'est quand tu vends ce qui te fait rentrer de l'argent, le problème, c'est que tu fais rentrer moins d'argent. Alors, il paraît quand même que ça pourrait amener une contraction du PIB islandais de 3%. C'est-à-dire qu'une petite affaire comme ça en Islande...
Non, mais c'est un pays de 400 000 habitants. C'est plus petit que Lyon. Alors, forcément, tu t'imagines que tout a un impact, en fait.
Et t'as quand même 3 000 pélos pelotes
qui sont coincés
quelque part, hein, donc 1300 hors transit, c'est-à-dire qu'ils sont entre deux, enfin un truc de dingue, voilà, enfin bon, c'était juste pour
ça,
vous
arrive
raconter
quand
ça.
Une...
ça arrive
quand
c'est quand même
quand c'est une compagnie de transport, c'est un peu plus compliqué,
c'est quand même magnifique. On va continuer avec le pognon très rapidement, juste pour vous dire que monsieur Trump veut tellement son mur qu'il en est à demander à vos pentagones de sortir le pognon. Donc là c'est $1 milliard qui est débloqué pour financer la construction d'une section de ce mur voulu entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Je vous rappelle que M. Trump est embêté, puisqu'il avait demandé, je crois, en tout 5,7 milliards hein, de dollars, que les parlementaires aux États-Unis d'Amérique lui ont donné 1,4 milliard. Donc il n'avait pas le compte. Donc depuis, il a déclenché ce qu'on appelle l'urgence nationale. Hein, c'était le 15 février dernier. Il voudrait encore débloquer des sous, parce qu'évidemment, les 5,7 milliards du départ n'étaient pas suffisants. Donc là, il va chercher des fonds fédéraux. Et le Pentagone s'appuie sur un article 10 du Code des États-Unis qui autorise le ministère de la Défense à construire des routes et des barrières et à installer des éclairages pour empêcher le trafic de drogue transfrontalier. Donc ils ont décidé d'aller dans le sens de M. Trump. Alors évidemment, les démocrates s'opposent encore à la chose pour le transfert d'argent, puisque c'est encore une fois des fonds fédéraux. Voilà. Que dire de plus ? Et puis on va terminer avec un petit facho. Au Brésil.
C'est petit facho est en train de devenir gros facho quand même.
Alors, je crois qu'il a toujours été grand facho en fait.
Oui, mais là, il prend de l'ampleur dans les mesures qu'il fait, qu'il met en œuvre.
Il faut quand même se souvenir que c'était un ex-capitaine des parachutistes, le président du Brésil, monsieur Bolsonaro.
Nostalgique de la dictature militaire.
Un grand nostalgique, puisqu'il a demandé à ce qu'il y ait des commémorations pour le 55e anniversaire du coup d'État du 31 mars 1964. Coup d'État où. Pour la Commission nationale de la vérité, il y a eu quand même 434 assassinats.
C'est sympa, c'est sympa. Il est bien quand même ce Bolsonaro. Ils ont fait un bon choix.
C'est un bon choix. Alors lui, il considère que ce n'est pas un coup d'État militaire.
Oui.
Hein, ce qui s'est passé en 64.
Ouais. Ouais,
il considère que c'est ni un coup d'État militaire, ni un coup d'État. Mais il considère que c'était vachement bien, hein, globalement. Il faut quand même se rappeler qu'il a trouvé que les autres dictatures ailleurs, au Paraguay, au Chili, en Argentine, en Bolivie, tout ça, en Uruguay, c'est vachement bien.
Oui, ben oui. Mais quand t'es militant d'extrême droite, forcément, t'aimes tes amis dictateurs d'extrême droite.
Alors, il y a aussi, alors du coup, évidemment, tout le monde ressort un petit peu dans la presse qu'il avait pu lire dans le passé. C'est ça qui est bien. Hein. Quand même, moi, c'est ce que j'aime bien dans notre 21e siècle, c'est qu'on retrouve tout plein de traces. Et là, il a dit, donc d'après, je ne sais plus quoi j'ai lu ça. En tout cas, en 2016, en juin 2016, je crois que c'était sur Le Monde, hein, me virer chercher. Il a dit, monsieur Bolsonaro, c'était sur la radio Rovenpan, ou Roven, je ne sais pas bien comment on dit, hein, vous m'excuserez. L'erreur de la dictature a été de torturer sans tuer.
Ouais, c'était pas mal cette phrase. J'ai trouvé ça assez symptomatique et représentatif du bonhomme.
Voilà. Bah, j'ai rien à en dire de plus. Vous ferez trois heures de dissertation sur cette question. Est-ce une erreur pour la dictature de ne pas avoir tué et d'avoir simplement torturé ? Voilà. C'est parti, chronomètre en main.
Eh ben, on reste du côté de ce bord politique.
De l'extrême droite.
Exactement, avec notre boss à tous ici. Alors, non pas à Radio Canu, mais dans la région Rhône-Alpes-Auvergne.
Heureusement, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, il parle maintenant, officiellement.
Je les emmerde.
C'est Arra. Parle bien, s'il te plaît.
Auvergne, on n'aurait jamais dû intégrer l'Auvergne, je vous le rappelle.
Ah oh là là, ça y est, nous
Je vous rappelle que sans ça, Vauquier n'aurait pas été.
C'est
élu.
Exactement. C'est pas du régionalisme, c'est.
Non, non, c'était juste pour ne pas avoir Vauquier. Bon, d'accord. En tout cas, actuellement, nous avons monsieur. Il porte un prénom inadmissible hein, pour un mec de droite. Ça devrait être interdit. Les Laurent devraient tous être de gauche.
Ouais, mais c'était si simple.
Ouais, c'est ça. Vrai. Laurent Wauquiez, donc, le potentat de la région Rhône-Alpes, d'après une enquête de Mediapart, aurait émis un faux en écriture publique. Donc la raison, en fait, c'est un amendement sur le bio dans les cantines qui avait été voté à la région dans le cadre du plan Marshall pour les lycées. Cet amendement proposé par un truc qui s'appelle le Rassemblement RCES, qui avait quand même été voté à l'unanimité moins une voix. Donc ça a été bien passé, tout le monde était d'accord quasiment. Et ça disait qu'il fallait dorénavant mettre en œuvre une, je cite, « gestion régionale, bio, locale et de saison de la restauration dans les lycées ». C'est en train de se mettre en place ça dans pas mal de régions. On a un exemple hein, vers Bordeaux là-bas d'une partie de la restauration qui est entièrement bio et locale. Enfin, ça se développe pas mal. Donc ils étaient dans l'air du temps, ils ont fait ça. Sauf que bon, faut pas délirer, Wauquiez est allergique à l'écologie, donc ça l'a énervé parce que ses amis agriculteurs productivistes qui bousillent la planète et qui font pas de bio, donc ont dû lui dire tu peux pas faire un truc là parce qu'on va être dans la merdouille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'est-ce qu'il semble avoir fait, puisqu'il n'y a pas eu de jugement? En fait, l'amendement qui avait été voté, ce qui est sorti, il a été réécrit, il a été rajouté à côté de bio, entre parenthèses, dans la mesure du possible. Bien évidemment, ça change tout, parce qu'on peut toujours dire que c'est pas possible et mettre zéro bio, du coup. C'est pas mal, quand même, cette réécriture. Hein, donc, ça casse carrément l'objectif de l'amendement. Alors, il faut savoir que si c'est un faux en écriture publique, ce qui n'est pas encore constitué et pas démontré, hein, mais ça ressemble quand même, il est passible de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Et en plus, s'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, bon, etc., bref, un maire ou un élu, etc., le cas de Laurent Wauquiez, ça peut aller jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'amende. Là, d'un seul coup, on se prend à rêver que la justice aille jusqu'au bout. Bon, le problème, c'est qu'il y a des gens autour de lui qui vont le défendre, ce qui est déjà arrivé, puisque officiellement, la région a répondu « Non, mais effectivement, il y a eu un dysfonctionnement interne pour essayer de noyer le poisson et pour pas que ça se voit ça soit peut-être Laurent Wauquiez. » Alors, s'il y a eu un dysfonctionnement interne, si c'est pas Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un d'autre qui a rajouté ça. Rajouter quelque chose qui n'est pas écrit, c'est un acte volontaire, hein, et pas un dysfonctionnement, contrairement aux mensonges qu'ils peuvent véhiculer. Que ça soit fait par M. Wauquiez ou par un de ses sous-fifres ou par quelqu'un d'autre, la personne devrait répondre devant la justice, hein, et on espère que l'enquête ira très très loin. Non, je suis méchant avec le monsieur Laurent.
Il paraît qu'il est pour un EPR dans la Drôme. Enfin, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse locale. Alors précisément, en fait, c'est qu'il, bon, comme il est pro-nucléaire...
Oui, bah oui, il est anti-écolo. Donc forcément,
en tout cas, il y a quelqu'un, un homme, qui parle pour lui. C'est un élu de Donzère. C'est une des villes du Tricastin, je vais y arriver. Ouais. C'est un conseiller régional qui s'appelle Mounir Arab. Il était à un truc qui s'appelle les rencontres de l'alternance des métiers du nucléaire. Déjà, je ne sais pas si vous imaginez un peu le contenu du truc. Et il a dit, au Dauphiné Libéré, la filière nucléaire est une filière d'avenir que Laurent Wauquiez soutient des deux pieds et des deux mains.
Ouais, bon.
Alors, d'ailleurs, je vous invite à lire le Dauphiné Libéré, parce que c'est dans le genre... On a souvent critiqué le progrès.
Bah, c'est l'équivalent.
Ah, c'est pire. Ah, non, non. Tu lis pas le Dauphiné.
Non, bah, je lis pas le Dauphiné.
Ah, bah, c'est
évidemment.
Vraiment, lise. Je vais faire un truc un jour dessus parce que c'est absolument magnifique. Alors.
C'est à moi, mais tu peux reprendre la main.
On va parler maintenant, oui, parce que c'est notre dernière partie.
Oui.
Et
oui.
Elle va s'enchaîner. On va parler.
Je commence par Purdue Pharma et après tu t'enchaînes avec Servier.
C'est ça. C'est l'idée.
Le concept.
Donc, alors, on vous explique hein, tout.
Puis. Voilà. Purdue Pharma, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise capitaliste qui fait dans le pharmaceutique, dans le médicament. Et depuis mardi, il y a deux jours, ils ont une énorme... Ils ont une énorme affaire depuis bien longtemps. Ils ont négocié un truc assez atroce. Ils ont donné 270 millions de dollars, ou à peu près 240 millions d'euros, pour mettre fin à une plainte de l'État d'Oklahoma. Donc ils ont acheté la justice. C'est possible aux États-Unis hein, dans ces procédures où on achète, au lieu d'aller au procès, on donne de l'argent. C'est juste honteux parce que seuls les riches s'en sortent, bien évidemment. Voilà. Alors qu'est-ce qu'a fait Purdue Pharmaceutique pour mériter comme ça cette opprobre de l'État d'Oklahoma et cette action en justice? Alors en fait, ça fait très longtemps hein, qu'ils sont poursuivis, qu'ils sont attaqués par le corps médical par certains patients et par certaines personnes souvent minoritaires dans le corps médical. En fait, Purdue, pendant des années, a incité les médecins à prescrire un médicament antidouleur qui s'appelle l'oxycotine, des dérivés opiacés dedans, tout ça, qui est un médicament au départ réservé aux personnes atteintes d'un cancer en phase terminale, ou des personnes en fin de vie, donc où on se dit la souffrance est telle, donner un produit avec des opiacés, enfin un produit addictif, une vraie drogue, c'est pas très grave. Sauf que ils ont minimisé beaucoup l'aspect addictif, beaucoup l'aspect dangereux de leurs produits. Les imbéciles de médecins américains ont donné ce produit à tour de bras un peu partout, et la mortalité due aux overdoses de ce médicament est devenue énorme. Alors, faut dire que ça a entraîné en fait des dépendances. Il y a des milliers d'Américains qui sont dépendants au départ à l'oxycotine, et qui, au bout d'un moment, c'est plus assez fort, ils passent au fentanyl, voire après à l'héroïne quand ils n'arrivent plus à trouver le médicament officiel qui se vend officiellement. Voilà. Alors, les chiffres sont énormes. Hein. 400 000 personnes aux États-Unis sont mortes par overdose d'opioïdes médicamenteux entre 1999 et 2017. Rien que 47 600 en 2017, le dernier chiffre qu'on a en date. Et aujourd'hui, dans l'État d'Oklahoma, 5% des habitants de plus de 12 ans, vous imaginez, 5% des plus de 12 ans, consomment de manière abusive ou inappropriée de l'oxycotine. Donc, ils sont arrivés, grosso modo, à camer toute la population, quasiment. Ils sont très très forts, ce laboratoire. Alors, ça leur a permis, quand même, de gagner un petit peu d'argent. Officiellement, la famille Stackler, qui gère le laboratoire, aurait gagné, entre 2008 et 2016, donc en 8 ans, 4,3 milliards de dollars. Petite somme rondelette. Donc là, ils ont payé finalement une somme ridicule, 239 millions d'euros ou 270 millions de dollars, pour éteindre cette action en justice. Alors, il faut savoir qu'il y a plus de 1600 autres actions en justice et plaintes déposées contre le laboratoire. Il y en a une partie qui sont regroupées, en fait, puisqu'il y en a tellement. La justice a regroupé dans un seul immense procès qui devrait démarrer très bientôt. Alors, eux, ils sont dédouanés, c'est pas les seuls. Il y a Johnson & Johnson et Teva Pharmaceutical qui sont aussi poursuivis et dans le collimateur donc de la justice de l'Oklahoma. Et eux, pour l'instant, ils n'ont pas payé. Donc eux, le procès auquel vient d'échapper ce laboratoire va commencer le 28 mai. Les deux autres, pour l'instant, ils n'ont pas payé, donc ils risquent d'aller au procès. Voilà. Alors, c'est juste une affaire habituelle. Il y a eu pas mal de reportages, hein, sur la dépendance des Américains aux drogues opiacés vendus officiellement par les pharmacies et donnés par les médecins. Là, c'est juste une affaire toujours triste que les capitalistes, avec de l'argent, peuvent échapper à la justice et peut-être aussi de l'aide des politiques et d'autres. Mais là, c'est vraiment avec de l'argent. Cette procédure américaine dans la justice qui existe aussi, qui commence à exister chez nous, elle est quand même assez inadmissible pour les victimes.
Ouais, on va continuer dans le pas drôle et on va revenir sur les laboratoires Servier. Je vous rappelle qu'il y a une affaire Mediator et on a appris que un procès au pénal des laboratoires Servier va s'ouvrir en septembre pour 6 mois d'audience. Il y aurait déjà près de 2000 personnes ayant pris le médicament qui se sont constituées partie civile. C'est un énorme truc, hein, 6 mois, 400 avocats, il y a 400 prévenus, 11 personnes morales. Ça va se passer au tribunal de grande instance de Paris. Il y a un certain nombre, évidemment, de personnes qui sont malades. Mais pour d'autres, c'est aller devant la justice pour tromperie aggravée. Donc, c'est une affaire qui n'est pas finie.
Malgré la mort du principal protagoniste, puisque le président fondateur là, de Servier est décédé il y a quelques années.
On vous rappelle que c'est Irène Frachon, docteur, hein, au CHU de Brecq, qui a lancé l'affaire. C'est une lanceuse d'alerte. Elle a fait un gros travail, hein, d'enquête au niveau de la médecine. Certains diraient qu'elle a fait son boulot, elle-même dirait qu'elle a fait son boulot, mais elle s'est battue. Je vous rappelle que son livre avait été aussi censuré sur une partie, hein, du titre et du sous-titre. On se souvient de la fille de Brest, hein, le film d'Emmanuel Berco. Tout ça a commencé en 2010 et donc, 9 ans après, on en est encore avec ces affaires de justice face à un laboratoire qui se bat pour ne jamais être reconnu coupable.
Ce qui est assez fort, hein, c'est que c'est une affaire d'assassinat quelque part, puisqu'il y a des morts au bout du compte.
C'est ça.
Le petit assassin qui va tuer quelqu'un dans la rue pour je ne sais quelle raison, etc., il passe en justice très très vite et il est condamné normalement. Là, c'est pas une personne qui est tuée par ce médicament, c'est beaucoup de personnes.
Alors, les chiffres, c'est une fourchette.
Ouais.
C'est entre 500 et 2100 décès.
Voilà. Donc, ils ont tué au moins 500 personnes. Et pour l'instant, 9 ans plus tard, il n'y a encore personne qui a été condamné.
Et je vous rappelle, le Mediator, c'est un truc incroyable, antidiabétique.
Au départ. Qui a été utilisé pour d'autres choses.
Comme coupe-faim. Ouais. Et on a aussi donc des médecins qui ont aussi
Mais alors, eux, on ne les touchera jamais.
Prescrit ouais. ce médicament, en particulier des femmes, pour une perte de poids. Voilà, et c'est là où on a un scandale sanitaire, ouais. un scandale ouais. de la médecine.
Mais là, il y a une protection des médecins qui peuvent prescrire tout ce qu'ils veulent sans jamais quasiment être poursuivis parce qu'ils sont co-responsables avec le laboratoire Servier quand même.
Les laboratoires Servier a commencé à indemniser des victimes. C'est une lutte acharnée hein, pour ces personnes. Là, en février, on a appris que pour une fois, le laboratoire Servier avait été condamné pour la première fois à indemniser une plaignante à 100%, parce que jusqu'à présent, c'était pas comme ça. Donc c'est assez récent. Elle a reçu 131 000 euros. Alors il faut savoir que s'il y a des gens qui sont morts, il y en a d'autres qui sont meurtris à vie. Il y a eu des opérations à cœur ouvert, et c'est de ça dont je vais vous parler.
Ça abîme une valve du cœur. Hein.
C'est ça. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est sur cette affaire du mois de février, c'est que l'avocate du laboratoire Servier, des laboratoires Servier, a estimé que le tribunal a jugé sur le fondement de la responsabilité sans faute, c'est-à-dire que le dommage résultait qu'en fait c'est pas le médicament, finalement ils ont rien à voir, c'est pas leur problème. C'est pas si simple, c'est que le tribunal les a pas jugés eux, mais a jugé un contexte. Hein, ils cherchent toujours un petit peu
des excuses
et puis à élargir les propos des plaignants et des plaignantes. Alors, moi j'ai envie de vous parler de cette pièce de théâtre que vous pouvez retrouver au théâtre de la Croix-Rousse, c'est jusqu'à demain s'il reste de la place, mais en tout cas si ça repasse quelque part où vous êtes, c'est l'occasion de vous déplacer. C'est un texte et une mise en scène de Pauline Bureau donc le texte hein, Mon cœur est disponible aux éditions Actes Sud Papier. C'est la compagnie La Part des Anges qui a monté donc ce spectacle. C'est donc Pauline Bureau, un jour elle entend Irène Frachon à la radio et elle entend la colère, le courage de cette femme, et ça la touche, et elle va rencontrer Irène Frachon, elle va rencontrer des victimes, des femmes qui ont souffert hein, de la prise de ce médicament, et elle écrit cette pièce, Mon cœur, qui est donc actuellement au Théâtre de la Croix, qui a déjà beaucoup tourné. Alors on peut se demander comment mettre en scène une telle affaire, un tel scandale.
Oui, qui est de l'ordre du polar judiciaire.
Oui, alors d'autant plus qu'on avait aussi La Fille de Brest qui raconte l'histoire d'Irène Frachon. Ouais. Pauline Bureau, elle fait un choix, c'est s'intéresser à une victime. Elle va en fait créer un personnage, une femme, Claire, qui prend ce médicament parce qu'après sa grossesse, elle n'a pas réussi à mincir. Comme dit sa sœur hein, dans la pièce, dans la famille, on fait du gras. Son médecin généraliste va lui prescrire ce médicament. Et là, c'est un engrenage. Alors, la pièce dure 2 heures. J'avoue que le premier tiers est pas la partie que moi gêne le plus. J'ai du mal, hein, moi, peut-être qu'on n'est pas tous hein, égaux quand on va au spectacle. Mais moi, j'ai du mal avec Claire, jouée par Marie-Nicole, que je trouve un peu en dedans, que je trouve le début un peu grandiloquent, mais je crois qu'en fait Pauline Bureau, elle a été touchée par Irène Frachon, par une femme qui s'est battue, qui s'en est pris plein la gueule, hein, dont qu'on a voulu faire taire, et elle a voulu quand même la mettre dans cette pièce, alors que finalement on aurait pu se passer d'Irène Frachon jouée par Catherine Vinatier, et puis on se concentrait simplement sur cette femme Claire qui, après avoir pris ce médicament, va subir une chirurgie à cœur ouvert pour remplacer les valves, et donc va se retrouver dans une situation physique absolument catastrophique et va vouloir se battre à un moment contre les laboratoires Servier. Donc je trouve que le début manque peut-être un peu de peps. Il y a une scène que j'aime pas beaucoup sur une constitution de cette opération à cœur ouvert que je trouve moi superflue. Il paraît qu'il y a des gens qui ont été choqués par cette scène parce qu'on y voit un petit peu du sang et tout. Moi je la trouve superflue, mais ça encore une fois c'est la manière dont on reçoit. Moi je suis très en attente sur cette pièce, je vous le dis. J'avais très envie d'aimer tout de suite la pièce. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'au début il fallait que je me calme. En tout cas, on a toute une partie absolument magnifique qui est portée, moi je trouve, par des seconds rôles, par Rebecca Finet et par Nicolas Chupin. Nicolas Chupin joue l'avocat qui accompagne Claire, et Rebecca Finet joue la sœur de Claire, que je trouve absolument formidable, qui arrive à porter à la fois de la colère, de la présence sur scène, face évidemment à Claire qui, elle, effectivement est un personnage amoindri, touché dans sa chair, hein, dans son corps et dans son cœur par cette opération qui va détruire son couple, son amour, sa sexualité. Et Pauline Bureau va nous emmener en fait avec une belle mise en scène à ce moment-là sur cette expertise et encore contre-expertise pour se battre face au laboratoire Servier et tenter de récupérer quelque chose, mais surtout aussi de pointer du doigt les erreurs du laboratoire. Et ça, c'est très très bien joué. Claire nous tourne le dos et on nous raconte des choses qui se sont vraiment passées, c'est-à-dire à un moment, on lui demande d'ouvrir son chemisier, de montrer son torse, pour qu'elle prouve que c'était si grave, cette cicatrice qui lui barre le corps quand même, qui lui barre le torse. Il ne s'agit pas simplement d'une petite incision pour soigner une petite problématique du cœur, il s'agit d'une balafre.
Oui, ils ont changé la valve, quoi.
Ah bah, c'est une balafre, hein, qu'elle a sur le corps. On va lui demander qu'est-ce qu'elle pense... mais elle a arrêté d'avoir des rapports sexuels, mais qu'est-ce qu'elle entend par rapport sexuel ? La pénétration ? C'est-à-dire que tout ça a été posé réellement aux victimes, ces questions-là.
Oui,
on est rentré dans leur intimité.
Ouais, ils essayent de les
humilier.
Mettre mal à l'aise, de les humilier pour pas qu'ils parlent, quoi.
Et pour faire taire leurs paroles. Et donc tout ça va être raconté dans cette deuxième partie de spectacle. Et c'est très très fort, c'est très émouvant, et puis on est très en colère. On est très en colère, on a envie d'être aux côtés de ces victimes. Et c'est très intéressant, cette scène, toute cette partie de la pièce est très intéressante. Le travail de Pauline Bureau, elle a passé quand même des mois à aller rencontrer des personnes. On sent qu'elle porte cette histoire, qu'elle a envie d'être aux côtés de victimes et de s'associer à leur douleur. Et en même temps, elle n'est pas non plus dans le pathos, elle n'est pas là non plus pour nous emmener dans une perte de dignité de ces victimes. C'est des victimes, mais du laboratoire Servier, et pourtant elles sont dignes, ces personnes. Et je trouve que c'est aussi de nous rappeler que ce sont des opérations très lourdes qu'ont subi une partie de ces femmes et ces hommes, particulier de ces femmes, qui ont pris ça quand même pour rien, c'est-à-dire pour perdre du poids. Imaginez un petit peu la souffrance qu'on peut ressentir quand, juste pour perdre quelques kilos, pour perdre du gras, on a eu un médicament qui en fait a détruit votre vie.
Et qui n'était pas fait pour ça, du coup.
Et qui n'était pas fait pour ça. Et donc, je trouve que c'est une très belle pièce pour ça, parce qu'elle nous met en colère, là où on avait peut-être oublié d'être en colère. À l'automne prochain, comme je vous le disais, va s'ouvrir le procès au pénal des laboratoires Servier. J'espère que nous serons tous et toutes en colère et qu'on pourra accompagner ces personnes qui vont faire face. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, ce qu'on nous raconte dans cette pièce, c'est ce qu'ont vécu les gens, c'est que Claire, elle se bat et ça dure 3 ans. Et c'est ce que, dans la vraie vie, les gens ont vécu. C'est-à-dire que là où il devait y avoir des négociations qui pouvaient durer 6 mois, eh ben ça a duré plus de 3 ans. Tout ça pour que Claire, évidemment, je ne spolie rien, hein, mais je vous allège juste un moment de déplaisir, va pouvoir souffler à la fin. Mais c'est quand même 3 ans de galère, 3 ans d'humiliation, d'oppression que tente le laboratoire Servier contre toutes les victimes, contre tous ces patients à qui on a prescrit ce médicament. Et c'est ce qui risque de se passer encore demain. Et on a juste envie de taper sur ces avocats, de leur cracher dessus. Vous voyez, et on ne peut pas le faire parce que nous, on est dignes, parce que nous, on est meilleurs que ces gens-là. Mais pourtant, on peut avoir que de la colère contre ces gens-là et pas juste contre le laboratoire. Il y a des avocats aujourd'hui et des agences très connues en France qui sont associées au laboratoire Servier. Et vous allez me dire que oui, la justice, il faut y avoir des avocats, mais on a aussi des cabinets qui sont spécialisés dans la démarche.
Pour défendre les multinationales comme ça.
National. Ouais. Et il ne faut pas oublier que derrière, il y a ce rapport capitaliste qui a fait qu'on a aujourd'hui des gens qui ont leur vie bousillée et dont, je vous le disais, entre 500 et 2100 personnes sont décédées.
Mortes. On va terminer avec un tout petit mot sur l'Algérie que tu avais oublié de noter dans notre petit...
Ouais, j'étais pas sûr que tu allais le faire, c'est pour ça.
Donc juste pour rappeler que c'est un peu la chienlit, pour reprendre une phrase qui n'est pas de nous et d'un personnage qui n'est pas de notre bord politique, puisque les dirigeants algériens ont tous, chacun à leur tour quasiment, lâché Abdelaziz Bouteflika depuis le début de semaine. Et du coup, demain, il y a encore une journée test de manifestation et ça va être une vraie journée test. On rappelle que ça a commencé mardi avec le général Ahmed Gaïd Salah, qui est le chef de l'état-major de l'armée, un peu c'est le boss militaire à la tête de l'Algérie depuis 15 ans et qui a estimé qu'il fallait arrêter, qu'il n'était plus en état de gouverner, ce président. Du coup, ça a entraîné pas mal de personnes politiques proches du président, notamment le Rassemblement National Démocratique, qui a lui aussi lâché chez Bouteflika. Finalement, il ne reste que le FLN, le parti historique majoritaire depuis l'indépendance de l'Algérie, qui soutient encore à bout de bras et encore à bout de bras son représentant. Même les patrons ont commencé à lâcher Abdelaziz Bouteflika. Donc, voilà. Alors, dans les faits, il va se passer un truc important. Normalement, peut-être demain ou peut-être ce soir, je ne sais pas quand, puisque ils ont tous évoqué un article de la Constitution qui permet de virer un président qui serait plus capable physiquement, dû à des maladies ou je ne sais quoi, de diriger. Et donc, tout le monde attend le rendu du Conseil constitutionnel algérien qui va dire si oui ou non il y a une procédure qui va être engagée pour destituer, démissionner de force le président Bouteflika. Suite à la déclaration du général mardi, d'ailleurs, je pense pas mal de gens avaient pensé que Bouteflika démissionnerait. Enfin, les gens qui parlent à sa place, là, ils lui diraient « je démissionne ». Il a tenu. Donc là, maintenant, tout va jouer dans le Conseil constitutionnel. Et surtout, demain, puisque demain, c'est à nouveau une journée de manif, tout progresse, c'est le test. Si la rue lâche pas, eh ben ça va, le processus va pouvoir continuer. Alors toute la problématique qui reste compliquée en Algérie, c'est que il faudrait que le pays soit capable de se construire un avenir sans le clan qui phagocyte le pouvoir depuis l'indépendance, sans l'armée qui a une position bien trop importante, sans tout ce capitalisme corrompu qui est présent, et avec une alternance politique qu'il faudrait construire, parce qu'elle n'est pas vraiment
Elle est inventée complètement.
Voilà. Du coup, rien n'est gagné, mais rien n'est perdu non plus. Voilà, c'est la fin de ce Canu Info, il est 20h02. Je n'ai pas préparé l'agenda, parce qu'on a eu un départ un peu précipité. A commencé le printemps libertaire, donc vous pouvez regarder sur rebellion.info ce qui se passe, où il y a un site, le printemps libertaire, pour savoir tout ce qui se passe autour de tout ça dans notre belle région. On va vous laisser en compagnie des bandes continues. Tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, je suis en train de chercher parce que moi aussi, j'ai pas eu le temps de... On a eu un souci d'imprimante pour tout vous raconter,
c'est ça,
si vous voulez notre
secret.
Vrai
souci.
Je voulais dire qu'il y avait un rassemblement pour l'Amphiz. Je vais y arriver, il y a une fête. Dimanche 31 mars, c'est pour les 15 mois d'occupation. Et puis, je vous rappelle que... il va se passer bien de choses, hein. C'est mars, c'est le printemps, c'est aussi des gens à la rue, c'est des difficultés, tout ça. Enfin bon, l'Amphiz, il y a des gens qui occupent et qui se battent pour faire vivre ce lieu. Donc il y a d'abord une petite manif à Charpennes et puis après c'est à 11h. Et puis hop, ensuite vous pouvez aller manger à l'Amphiz, il y a des matchs de foot, il y a des prises de parole, il y a des concerts, il y a re de la bouffe et il y a re du concert.
Ouais, c'est de la fête quoi.
Bah oui, c'est aussi un moyen de soutenir le lieu, de le faire vivre, et puis voilà, la lutte c'est aussi parfois d'être dans un environnement festif et convivial pour se rappeler que ben ouais, on peut être ensemble, solidaire et être dans l'entraide, et voilà, ça se fait.
Voilà, on vous laisse en compagnie des bandes continues, on revient la semaine prochaine, 19h.
Si, on revient la semaine prochaine.
20h, oui, tout à fait, pour le Canu Info du jeudi, et demain 19h pour le Canu Info du vendredi.
Ciao, ciao.
Bye, bye. Yeah, make me wanna holler the way they do my life.
En fait, on n'est pas parti.
En fait, on a un petit complément à dire.
Ouais.
Le téléphone sonnait, on n'a pas pu prendre parce qu'on était à l'antenne. Et c'est Christophe qui fait l'émission spectaculaire le mercredi à 14h qui a reçu
la comédienne qui joue Irène Frasson dans Mon Cœur. Voilà, donc il a tout mis ça en podcast, tout ça,
oui.
En balado-diffusion.
Voilà, donc vous cherchez, donc l'émission s'appelle Spectaculaire sur le blog, les blogs de Radio Canu. Et vous pourrez réécouter.
Voilà.
ce qu'il a pu. Ils ont dû parler en long, en large et en travers de la pièce.
C'est bien parce que comme ça, vous avez tout plein d'avis sur ce que différents, hein, ou pareil ou pas pareil. C'est ça aussi Radio Canu. Voilà, c'est bien.
Voilà, spectaculaire. Donc c'est le mercredi à 14h.
Ouais.
Et pour annoncer La Causerie, une émission qu'on aime bien, puisqu'on a écouté Jean-Yves juste avant le Canu Info qui nous annonçait ses morceaux anti-religion. C'est le dimanche à 22h.
Ciao, ciao.
Bye.